Alors bonsoir à tous, un grand merci d'être là parmi nous. Je suis très heureuse d'accueillir Luc Barbulesco. Donc Luc va nous parler de la transmission anti-islamique. Il est agrégé de lettres. Il est chargé de cours à l'université donc, de Nice Côte d'Azur, traducteur de l'arabe et de l'anglais aussi, je crois que j'ai rien oublié, et que tu as enseigné, que tu as été aussi, je crois, que j'oublie rien, ancien élève de l'école normale supérieure. Voilà. Donc, et je remercie vraiment beaucoup d'être là parmi nous et de nous avoir préparé, donc, même si nous allons enregistrer donc, sa conférence, mais de nous avoir préparé aussi tout ce résumé que vous avez entre les mains. Maintenant, je laisse Luc commencer.
Merci. Donc, comme on vient de vous le dire, d'abord bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. J'ai l'intention de vous parler, dans le cadre de ce thème justement qui a été choisi cette année dans le cadre des rencontres du Vivre Ensemble à Cannes, le thème de la thématique de la transmission, qui est une thématique très très complexe, très riche, très suggestive également, et qui s'applique, hein, qui est pertinente pour l'ensemble des disciplines religieuses et des différentes fois religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes, voire orientales. La transmission suppose, quand on dit transmission, dans le cadre de la linguistique, puisque en fait c'est un terme qui vient de la linguistique, cela suppose la transmission de quelque chose, la transmission d'un message. Et cela suppose également qu'il y a une origine à ce message et un destinataire de ce message. Et il y a, plus important encore que tout ça, il y a la manière d'encoder ce message, le code. On encode le message et le destinataire est invité à le décoder, ce qui n'est pas absolument évident. Et c'est quelque chose, c'est un processus qui est en œuvre depuis le commencement du monde, hein, comme disait René Girard, et qui est un processus d'autant plus complexe, qui est déjà assez complexe lorsqu'il s'agit d'une transmission entre groupes humains. Transmission qu'on pourrait appeler horizontale. Là, la question de la traduction se pose, la question de l'écriture, la question du message. Mais c'est encore beaucoup plus complexe quand on imagine, et c'est le cas, c'est l'intuition centrale de toutes les religions, de la plupart des religions, que l'origine de message est une origine divine. C'est-à-dire, la transmission est verticale. Elle vient du tout autre pour être transmise aux hommes. Et les hommes ensuite s'emparent, ou une certaine classe d'hommes, ce qu'on appelle les clercs de manière générale, s'emparent de ce message, l'encode et le transmet à son tour aux fidèles. Je reviendrai là-dessus en conclusion, mais la problématique, elle est là. Et pour resserrer un petit peu le propos, je parlerai, en tant que simple membre de l'association El Medina Munawwara, je ne représente pas le recteur de cette association, de la mosquée Medina Munawwara, je parle en mon nom propre, en tant que membre de l'association, et je salue d'ailleurs les membres de l'association qui se trouvent ici ce soir, et je veux me concentrer, si vous voulez, sur une question particulière, qui est celle que l'on est amené à se poser lorsque on lit, lorsqu'on médite le texte coranique. À savoir que le texte coranique, bien évidemment, transmet un message. Mais on pense d'ordinaire que le message transmis, c'est le message de l'islam, et qu'il est ensuite amené à entrer en relation avec d'autres messages chrétiens notamment, mais que, voilà, c'est un message qui a été donné une fois pour toutes, à une certaine période bien précise d'ailleurs et bien déterminée de l'histoire humaine, dans un lieu bien déterminé de la géographie du Proche-Orient. Et on néglige le fait, qui est pourtant très très important, que la teneur même de ce message existe déjà avant la révélation, ce que les musulmans appellent la révélation faite au prophète arabe, sur lui la paix et le salut. Et cette révélation, en fait, est à comprendre comme une sorte de révélation continuée, successive, qui commence très tôt, qui commence en fait à Adam, et qui se poursuit au moyen d'un certain nombre de figures, qu'on appelle des figures prophétiques, que je vais énumérer, ou dans quelques-unes d'entre elles, et qui trouvent son accomplissement dans la personne du prophète arabe. Mais c'est un accomplissement, c'est une synthèse. Autrement dit, synthèse, quand on dit synthèse, on prend la récapitulation de tout ce qui précède. Et donc ça suppose que l'on connaisse, qu'on apprenne à connaître justement quel était le contenu de tout ce qui précède et qui vient trouver son accomplissement, sa synthèse dans le message islamique. Alors, je ferai, comme vous l'avez vu sur le papier, un exposé en quatre parties. Dans la première partie, je parle de cela, de ce que je viens de dire. Quels sont les prophètes qui ont précédé le prophète arabe? J'essaierai d'en nommer quelques-uns. Ça, ce sont mes deux premières parties. Et si vous voulez, vous pourrez intervenir après, à la fin de la deuxième partie, pour obtenir quelques précisions ou des éclaircissements. Et puis ensuite, j'entrerai, troisième partie, peut-être dans le vif du sujet, dans ce que j'ai annoncé, je m'attarderai sur une figure particulière qui n'est pas un prophète au sens propre du terme, et qui a ceci de particulier, est intéressant d'ailleurs, qu'il est au carrefour des traditions islamiques et des traditions occidentales ou grecques, à savoir la figure d'Alexandre, que le Coran mentionne et qu'il appelle Dhulqarnayn. Et je m'attarderai un petit peu sur cette figure qui est très intéressante, et notamment par son côté, par cet aspect de carrefour, qui concentre un certain nombre de dimensions que l'on retrouve ensuite ailleurs. Et puis enfin, la conclusion sera nécessairement sur la question de l'islam lui-même et de la manière dont on peut voir comment l'islam, en tant que religion bien sûr, mais en tant que doctrine, en tant que pratique, en tant que réflexion, peut entrer ou doit entrer en rapport avec d'autres traditions, et notamment avec les traditions occidentales. J'avance même l'hypothèse, qui est peut-être un peu paradoxale, que l'islam appartient fondamentalement à l'Occident. Et qu'aujourd'hui, dans la crise terrible que traverse l'Occident, l'Occident aurait tout avantage à s'intéresser de plus près à cette composante centrale de lui-même qu'est l'islam. Et je terminerai de façon à ce que, je ne vais pas m'attarder trop, de manière à vous laisser effectivement la possibilité ensuite de faire circuler, si vous voulez, la parole, le débat, même contradictoire éventuellement. Donc je reprends la première partie sur les traces précieuses que le texte coranique porte en lui-même d'une révélation anti-islamique. Anti-islamique, c'est-à-dire antérieure à l'islam. Je ne parle pas de anti-islamique. Anti-islamique, comme on parle de d'antéchrist, et non pas d'antichrist, c'est-à-dire ceux qui précèdent l'islam. L'islam qui est, comme chacun le sait, apparu en tant que tel au moment de l'Égire, en l'an donc 622 de notre ère, et qui va en l'espace de de moins d'un siècle, véritablement connaître une expansion foudroyante dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient et même au-delà, et jusqu'à la Malaisie, l'Indonésie, en l'espace de moins d'un siècle. Et on dit, c'est quelque chose qui est reçu, qui va de soi, que le prophète arabe est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Mais cela implique la succession avant lui d'une multitude d'autres prophètes et qui, en quelque sorte, prépare. Il y a une sorte de préparation, de pédagogie. On peut parler même de propédeutique, hein, au sens pédagogique du terme, qui prépare sa venue et dont le message est un message qui, itératif. C'est toujours le même. Il n'y a pas de contradiction d'un prophète à l'autre. Il n'y en a pas certains qui disent quelque chose, d'autres qui disent quoi, pas du tout. C'est le même message qui peut être résumé en quelques phrases et qui est, dont les traces de ces messages sont inscrites dans le texte même du Coran. Vous avez, et pourquoi on les appelle des prophètes? Le mot prophète n'est pas un mot arabe, c'est un mot grec, et ça porte la trace, le signe, si vous voulez, utiliser même le mot prophète, prophétie, du fait que le texte coranique, le texte islamique, a très tôt, dès le 7e, dès le 8e siècle, était mis en articulation, mis en rapport avec le monde, avec le monde occidental, et par le biais, par le truchement du grec, qui était la langue universelle à l'époque au Moyen-Orient. Le Coran a été traduit plus tard, effectivement, mais il a déjà circulé, et avant le Coran, les textes auxquels le Coran fait référence, c'est-à-dire les textes bibliques notamment, et l'Évangile, étaient des textes, étaient écrits en grec. Or, en grec, le mot prophète a une signification bien précise, prophétesse. C'était, dans la Grèce ancienne, dans la Grèce païenne, pré-chrétienne, c'était le nom que l'on donnait dans les temples, à un prêtre, qui peut être une prêtresse d'ailleurs quelquefois, qui se faisait l'interprète du Dieu. Quand on venait à Delphes, par exemple, pour recueillir un oracle d'Apollon, du dieu Apollon, le dieu Apollon ne s'adresse pas directement aux fidèles. D'ailleurs, de manière générale, les dieux n'ont pas de communication directe avec les hommes. Ils sont d'une essence totalement différente. Ils passent par l'intermédiaire, par le truchement d'un, ce qu'on appelle un prophète. Prophète, c'est-à-dire celui qui parle au nom de, celui qui parle au nom du dieu. Et c'est ce sens-là, de celui qui parle pour parler de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un message qui est plus grand que lui, et dont il se borne à transmettre en quelque sorte la teneur, parce qu'il a eu ce privilège terrible, périlleux, extraordinaire, d'entrer en communication avec l'être divin, on a utilisé le mot prophète, ou plutôt Saint Jérôme, lorsqu'il a voulu traduire la Bible, a utilisé ce mot, et avant lui, ce qu'on appelle les 70, c'est-à-dire les 70 traducteurs de la Bible de l'Ancien Testament à Alexandrie, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ont utilisé ce mot pour traduire ce qu'on appelle dans la Bible hébraïque les Nevi'im. Nevi'im, qui est le même mot que l'arabe Nabi, Anbiya, et qui veut dire justement prophète. Et là, il s'agit naturellement des grands prophètes et des petits prophètes. Hein, Isaïe, Jérémie, Habacuc, etc. Il y en a une quinzaine. Et donc cette assimilation, cette traduction, si vous voulez, de Nevi'im par prophétaï est restée, était quelque chose qui allait de soi dans le monde chrétien du premier siècle de notre ère. Et ce qui fait que lorsque l'islam est apparu, et il est apparu en Arabie, comme vous savez, dans un milieu dont tous les travaux historiques aujourd'hui montrent que c'était un milieu profondément christianisé. C'est-à-dire que les Arabes d'Arabie étaient, dans leur grande majorité, ils étaient chrétiens. Chrétiens appartenant à différentes sectes, naturellement, mais ils étaient chrétiens. Et l'idée selon laquelle c'était des païens qui adoraient, qui se prosternaient devant des pierres ou des bétels, etc., ça c'est un peu la légende. Au point que, c'est un point central, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, la traduction du mot mushrikin dans le Coran, c'est-à-dire ceux qui associent à Dieu d'autres divinités, est traduite ordinaire par polythéistes, mais par les premiers traducteurs, par Blachère, etc., en français. Mais la vérité, c'est que, très probablement, les Arabes contemporains du prophète arabe n'étaient pas polythéistes au sens, ou alors peut-être de manière un petit peu rémanente, un peu comme en Afrique de l'Ouest, hein, où les gens sont catholiques, mais ils continuent aussi à avoir un certain nombre de pratiques polythéistes, mais c'est des traces. Ils étaient chrétiens. Ils étaient chrétiens et tout est là. Et ceci explique le fait que le Coran, que le texte coranique se comprend de façon plus approfondie lorsqu'il est mis en rapport avec l'écriture, les écritures judéo-chrétiennes. Alors, ces prophètes étaient en général issus d'un milieu qui était israélite, de Palestine, mais pas uniquement. Vous avez des prophètes qui venaient d'Égypte. Je vais parler tout à l'heure du prophète Youssef, qui venait d'Égypte, qui venait de Mésopotamie, comme Jonas, Younes, qui venait d'Arabie. Il y a le Coran lui-même évoque deux prophètes arabes qui étaient Saleh et Shuaib. Prophète arabe qui déjà avait, à une époque qui n'est pas déterminée, qui avait déjà transmis ce message fondamental venu d'en haut et qui est un message d'avertissement adressé aux hommes, à savoir vous vivez dans l'ignorance, dans le péché, repentez-vous, il faut se repentir. Avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous ne le faites pas, eh bien, le châtiment divin sera terrible. Et c'est le thème du châtiment des villes pécheresses, qui est dans la Bible, hein, Sodome et Gomorre, mais qui est aussi dans le Coran. Les peuples de Had et Thamoud, qui n'écoutent pas le message transmis par Shoaib et par Saleh, et qui sont punis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les villes de Had et Thamoud, c'est des zones archéologiques dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, en particulier une ville ou un site qui s'appelle Madain Saleh, justement, la ville de Saleh, qui aujourd'hui fait l'objet de fouilles archéologiques, ce qui est très, très important parce que ça fait à peine 10 ans, c'est très récent, que le gouvernement saoudien manifeste beaucoup d'intérêt à l'archéologie pré-islamique, bien sûr, et a confié d'ailleurs à des Français, à des équipes françaises, le soin c'est lié avec le tourisme, naturellement, de fouiller dans ces régions-là. Et donc, on a déjà trouvé des choses très, très intéressantes. Ces fouilles archéologiques montrent que le message qu'on appelle islamique, si vous voulez, était déjà présent des siècles avant, en Arabie. En Arabie du Nord, en Arabie du Sud également, c'est-à-dire le Yémen. Et la ville de Najran, qui est très importante, Najran qui aujourd'hui est en Arabie saoudite, mais qui appartient, si vous voulez, culturellement au Yémen. Et vous avez là, à Najran, des traces, enfin les historiens ont conservé des traces d'événements très très importants qui mettaient en cause, qui montrent qu'il y avait une population chrétienne, arabe chrétienne, qui vivait là. Et notamment, il y a eu en 525, c'est-à-dire un siècle exactement avant l'Hégire, un événement dramatique qui s'est passé à Najran, c'est-à-dire la révolte des Arabes chrétiens contre leur roi, qui était un roi juif, qui venait de l'autre côté de la mer Rouge, de Tabissimi, et qui avait, et qui régnait, il s'appelait Abu Nouwes, et qui, régnait sur cette région-là, et de façon tyrannique. Il y avait une insurrection qui a été réprimée de façon extrêmement cruelle, et le Coran se fait l'écho de cette insurrection, de cette répression terrible, dans quelques versets, c'est très allusif, où on parle des Ashab el-Erdoud, c'est-à-dire les gens du fossé, des gens du fossé, c'est-à-dire que les révoltés avaient été jetés par le roi, par ses hommes, dans un fossé dans lequel on a allumé du feu, la fournaise. Et ces martyrs-là, qui sont les premiers martyrs, non pas de l'islam, bien sûr, mais les martyrs de ce qu'on pourrait appeler du monothéisme. Exactement comme on a dans la Bible, dans le livre de Daniel, l'épisode des trois jeunes gens dans la fournaise, qui sont eux-mêmes également, ça se passe à Babylone, qui sont eux-mêmes des martyrs de la vérité, hein, du monothéisme. Donc vous voyez que, et ce thème-là, du martyr, est un thème islamique, bien sûr, et qui précède de plusieurs siècles l'Hégire. Il ne faut pas oublier non plus, toujours sur cette thématique-là, de la présence chrétienne en Arabie, le fait que l'oncle de Khadija, la première épouse du prophète, l'oncle de Khadija, qui s'appelait Waraka ben Nawfal, était chrétien, c'était même un évêque de Najran ou de la région de Najran, je ne sais pas exactement, et qu'il a été un des premiers témoins, justement, de la mission prophétique dans laquelle il a reconnu la continuation, si vous voulez, d'un message qui datait, qui était beaucoup plus ancien. Vous avez là ces prophètes-là, ce qu'on peut appeler les prophètes, et qui se succèdent, et qu'on peut nommer. Donc on va nommer le premier d'entre eux, si on laisse de côté Adam, Noé, ben les patriarches, mais qu'on prenne véritablement celui qui, de manière explicite, fait appel ou bien invite ses compatriotes à adorer le Dieu unique. Il s'agit d'Abraham. Abraham et Ibrahim, qui est le premier à être appelé dans le Coran lui-même musulman. Puisqu'on dit dans le Coran que Abraham se dit lui-même, se compte parmi les musulmans. Et muslimin, en arabe, ça veut dire très littéralement ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. Et Abraham manifeste dans toute sa vie, dans toute son existence, dans tout ce parcours qu'il fait depuis Ur en Chaldée jusqu'à Hébron, enfin jusqu'en Palestine, il manifeste justement ce trait tout à fait caractéristique des prophètes, à savoir un abandon total, une obéissance totale au décret divin, à la volonté divine, jusqu'à être prêt, comme vous le savez, à sacrifier son propre fils. Et cet abandon au décret divin, en arabe, s'appelle justement islam. Donc vous avez là 1000 ans, au moins 1000 ans, plus que 1000 ans, 2000 ans, avant l'Égire, cet exemple, qui est déjà un exemple parfait, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'attitude islamique. C'est l'occasion ici d'évoquer un roman qui porte le nom d'Abraham, Abraham ou la cinquième alliance de Boalem Sansal, qu'il a écrit il y a 5 ans, paru en 2020, et dans lequel il refait cet itinéraire. Il imagine que aujourd'hui, à Our, qui est une petite ville dans le sud de l'Irak, pas loin de Basra, un jeune homme qui s'appelle Abraham veut, à la suite d'une sorte de rêve ou de révélation, veut refaire, avec la permission de son père, d'ailleurs qui s'appelle Terah, c'est exactement, on suit le récit biblique, refaire cet itinéraire abrahamique. Et il va le refaire, mais dans le Moyen-Orient de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle, qui effectivement n'a rien en commun avec le Moyen-Orient décrit dans la Bible. Ce parcours sera l'occasion pour lui à nouveau de mettre à l'épreuve ses idées, ce mystère sur lequel on peut toujours réfléchir encore aujourd'hui, ce mystère de... Il y a plusieurs dimensions dans ce mystère. Le mystère d'abord de la communication avec le Très-Haut. Comment communiquer avec le Très-Haut, puisque par définition, le Très-Haut n'a rien de commun avec les hommes. Il n'y a aucun atome crochu, j'allais dire, entre l'être divin qui est absolument transcendant. Transcendant, ça veut dire au-delà de toute représentation, et l'homme. Donc, quel est le mystère de cette communication? Et ensuite, quel est le code utilisé pour transmettre un message, pour le recevoir et ensuite dire qu'on l'a reçu? Parce qu'un message, ce n'est pas tout de le recevoir, il faut dire message bien reçu. Donc ça suppose un code. Et qui a donné ce code? Et donc, déjà, la problématique, elle est là, entièrement formulée, si vous voulez, dans le livre de la Genèse et dans le Coran. Dans le Coran, de manière beaucoup plus allusive, comme toujours. Puisque le rapport du Coran par rapport à la Genèse ou par rapport au Pentateuque est toujours un rapport oblique, ce n'est pas un rapport direct. Et donc il y a ce mystère-là, et ensuite il y a un autre mystère qui est le fait de ce qu'on appelle l'amitié d'Abraham pour le Très-Haut. Le fait qu'il reçoit les messagers, les anges divins à Mamré, enfin en Palestine, le fait qu'il est présenté dans le Coran, mais c'est déjà dans la Bible, comme le El-Khalil, c'est-à-dire l'ami de Dieu. Comment être ami de Dieu? Puisque Dieu, encore une fois, est le tout autre. Un ami, c'est un autre soi-même. Or, Dieu est tout autre. Donc, cette amitié paradoxale. Et c'est là-dessus que réfléchit Boalem Sansal. Donc, je pense que ce serait bien d'avoir une pensée pour lui. Je ne dis pas qu'il a été arbitrairement détenu, etc., à cause de ce livre ou à cause d'autres livres qu'il a écrits ensuite. Il a été détenu tout simplement, enfin arrêté et détenu pour quelques déclarations qu'il avait faites dans un journal et qui n'avaient aucun rapport ni avec la religion proprement dite, ni même avec la problématique, si vous voulez, des rapports entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire c'est un exemple encore de cette absurdité qui régit aujourd'hui, les relations entre le monde arabe, le monde islamique et l'Europe. Et il ne faut pas oublier que ces pratiques finalement de piratage, de corsaire, au début du XIXe siècle, étaient tout à fait courantes. C'est-à-dire les corsaires venaient d'Alger, de Tunis, de Bougie, etc., et s'emparaient de gens en Méditerranée, qu'on appelait la course, et ils étaient prisonniers, les captifs, et ensuite exigeaient des rançons. Ben, finalement, c'est ça qui a provoqué la fameuse intervention française de 1830. Et aujourd'hui, deux siècles plus tard, on s'aperçoit avec stupéfaction, avec horreur, qu'après 130 ans de colonisation, d'occupation, de libération, de décolonisation, etc., de transformation radicale des relations entre l'islam et l'Europe, on est revenu, d'une certaine façon, au point de départ, c'est-à-dire un rapport qui est un rapport purement vénal, n'est-ce pas, de capture, de rançon, et dans l'oubli complet, dans le refus complet de comprendre les enjeux véritables de la relation entre l'islam et l'Europe. Je ferme la parenthèse. Après Abraham, on a un autre personnage de prophète, et c'est Joseph, Youssouf. Youssouf, qui était le fils, un des fils de Jacob, le fils préféré de Jacob, et qui se trouve là aussi, emmené par ses frères, il est captif, il est emmené en Égypte, il est là aussi racheté, et il demeure en Égypte auprès du chef de la garde du pharaon. Il se passe là, il y a toute une histoire romanesque qui se passe là-bas en Égypte, et il va, au bout de quelques années, après bien des épreuves, et après avoir résisté à bien des tentations, retrouver son père et ses frères, enfin retrouver ses frères, et manifester là aussi cette espèce d'amitié particulière ou de lien particulier qu'il entretient avec le Très-Haut. Donc on pourrait dire que l'histoire de Joseph, qui dans le Coran, c'est la seule sourate, la sourate 12, la seule sourate qui a un côté narratif. Le Coran n'est pas narratif. Il est profondément différent de la Bible, de l'Ancien Testament, et même de l'Évangile, dans la mesure où il n'est pas narratif du tout. Hein, c'est une sorte de dialogue permanent, d'exhortation, de dialogue. Quand on évoque des histoires, naturellement l'histoire de Moïse, l'histoire d'un, c'est toujours de façon très très allusive auprès de gens qui étaient censés connaître parfaitement ces histoires, justement. Donc on ne les raconte pas. En revanche, oui, la sourate Youssouf, elle est tout à fait narrative, et ce qui lui donne d'ailleurs un caractère tout à fait avec la sourate de la caverne, qui elle aussi a des côtés, des éléments narratifs. On pourrait dire que la sourate de Joseph, c'est une sorte de roman, petit roman, hein, c'est du roman théologique. Et c'est pas un hasard qu'elle a été reprise ensuite à l'époque moderne, et notamment par l'écrivain allemand Thomas Mann, qui a écrit Joseph et ses frères en trois parties, et qui développe justement cet élément narratif romanesque, mais romanesque assez particulier, romanesque théologique, qui se trouve déjà dans la sourate du Coran. Et puis enfin, je dis enfin, mais je pourrais continuer encore longtemps, mais il y a la figure de Aïssa ibn Mariam, la figure de Jésus, fils de Marie, qui se trouve cité dans le Coran une centaine de fois. C'est-à-dire c'est le personnage bien davantage que le prophète arabe, que le prophète Mohammed, qui n'est cité que trois fois. Jésus, Aïssa ibn Mariam, est cité 100 fois, plus de 100 fois. Tantôt sous son propre nom, Aïssa, tantôt sous le nom de El Messia, le Messie. Ça interroge, hein, c'est tout à fait intéressant. Et le mot même de Aïssa est très probablement, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, le résultat d'une sorte d'anagramme, de jeu de lettres. À savoir qu'on a pris le nom de Yahshua, ou Yahshua, qui était le nom araméen, puisque en Palestine, à l'époque de Jésus, tout le monde parlait araméen, ou grec, et on a renversé l'ordre des lettres, et de Yahshua, on a fait Aïssa. C'est ce qu'on appelle un hypocoristique, c'est-à-dire une formulation un petit peu affectueuse pour transformer un nom, le rendre en quelque sorte plus familier. Mais donc Aïssa, c'est Yahshua. À ceci près que, il n'est pas, la figure de Aïssa telle qu'elle apparaît, notamment dans la sourate 4, El Ma'ida, ne correspond que d'assez loin à la figure de l'Évangile. Ce n'est pas le Christ de l'Évangile, c'est lui bien sûr, mais avec des différences et des différences assez profondes. Cela dit, le message, et c'est là ce qui m'intéresse ce soir, le message transmis par Aïssa ben Mariam à ses disciples est exactement dans la ligne des messages transmis par les prophètes précédents et par celui qui allait venir, et qui d'ailleurs il annonce, puisqu'il annonce la venue après lui d'un paraclet, parakletos. Parakletos en grec, ça veut dire l'avocat, le secours, le conseil. Donc, et certains ont vu dans ce mot de parakletos une sorte d'annonce du mot Mohammed, qui en arabe contient ces significations, et d'autres encore. Quoi qu'il en soit, il y a une continuité indéniable dans la transmission du message, à savoir qui est le message monothéiste. Et non pas ce qui, pour les chrétiens, lecteurs de l'Évangile, le message de l'Évangile, c'est évident qu'il est monothéiste, mais il n'est pas que cela. Et même le message central, le monothéisme est donné comme quelque chose d'acquis. Ce n'est pas ça le message central. Le message central, c'est la question du salut. Comme quoi le Christ est venu pour racheter, on parlait tout à l'heure du rachat des captifs, oui, absolument, pour racheter, c'est la rédempteur, pour racheter l'humanité et la réconcilier avec Dieu. Et et c'est le sens du mystère de l'Eucharistie. Or, dans le Coran, dans la Sourate El-Ma'eda, la table, dans laquelle la figure de Aïssa ibn Mariam apparaît à la fin de la Sourate, et elle pourrait faire l'objet de tout un commentaire, ce sera une autre fois, on voit les disciples faire une demande à leur maître, tout à fait étonnante et paradoxale. Il lui demande de faire un miracle. Il dit, et si tu faisais descendre du ciel une table servie? Et curieusement, et c'est quoi ça, que ça veut dire une table servie? Et la plupart des musulmans me disent, oui, ben c'est ça, voilà, c'est un miracle, parce que le Christ a fait des miracles. Il a guéri des aveugles, des sourds, des lépreux, le paralytique, etc. Il a fait des miracles alors que le prophète arabe n'en fait pas. Donc c'est le propre du Christ que de faire des miracles. Bon. Et cette une table qui descend du ciel, ben c'est un miracle comme un autre. Et c'est rare, certains le font, mais certains l'ont remarqué, mais finalement assez peu, de dire que en fait, cette idée de la table servie qui descend du ciel, c'est la table de l'Eucharistie. C'est la table de l'Eucharistie, et qui est, d'une façon curieuse, qui n'est pas désigné comme tel, et qui est à la fois évoqué ou convoqué par le texte coranique et rejeté. Puisque le Christ dit, peut-être pourrais-je, je pourrais faire descendre, mais il l'a fait, bon, on ne sait pas, c'est toujours interrogatif. Donc, c'est comme si le mystère de l'Eucharistie, qui n'appartient pas à l'islam bien sûr, était là, évoqué, pour être en même temps écarté. Et vous savez que, chacun sait, que toujours dans la Sourate El-Ma'eda, quand il s'agit de la croix, qui est le mystère central du christianisme, le texte coranique dit très clairement que c'est une mise en scène, que ça n'a pas eu lieu, c'est une mise en scène, c'est un faire semblant, bon, et que le Christ n'a pas été ni tué ni crucifié. En revanche, il a ressuscité, et à plusieurs reprises dans le Coran, à propos de Yahya, Jean-Baptiste, et à propos du Christ, il est question de résurrection, sans aucun doute. Donc il y a un rapport, si vous voulez, qui est assez complexe. Là, ce qu'il faut retenir de cette succession de prophètes, dont le dernier est le Christ, c'est cette idée d'une continuité du message, c'est-à-dire d'une transmission continue, de la continuité de la transmission d'un message. Message inchangé, et qui, en quelque sorte, curieusement, paradoxalement, vient, se répète, et comme on dit en anglais, ne fait que tomber sur des oreilles sourdes. Fall on deaf ears. Parce que les hommes n'entendent pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont un cœur, ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. Et que comme ils ne comprennent pas, il faut à nouveau répéter, insister, comme un professeur ne cesse d'insister, auprès d'élèves qui, en général, pensent à autre chose, quoi, et n'apprennent que pour l'examen, c'est tout, et ensuite oublient tout ce qu'on leur a dit.